le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Imo et Radio Territoria en simultané. Avec nos équipes, nous sommes présents à Bordeaux pour le congrès HLM de l'Union sociale de l'habitat, un événement fédérateur évidemment pour les acteurs économiques et sociaux de l'habitat social. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Marcel Rogemont. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Vous êtes président de la Fédération nationale des offices HLM, mais également président de l'Association régionale des organismes HLM de Bretagne. Autant dire que vous avez différentes casquettes et vous n'êtes pas arrivé à ces postes-là par hasard, Marcel, puisque vous avez eu un parcours personnel et professionnel assez riche. Et j'aimerais d'abord, si vous le souhaitez, qu'on parle un petit peu de votre parcours personnel, parce que vous, les HLM et on va dire les HBM, vous les connaissez sur le bout des doigts, parce que vous avez grandi et vécu avec vos parents dans une HBM. Alors qu'est-ce que c'est ?
Les HBM, c'est les ancêtres des HLM, hein, jusque dans les années 50-60, on appelait ça des HBM, des habitations à bon marché.
C'est fou,
et
hein.
Moi, je suis né dans une HBM. Et c'était, mes parents vivaient dans un taudis, hein, pour être très clair. Hein, c'était après-guerre. Et puis, ils sont arrivés là. Ça a été pour eux un espoir de vie, hein, important. Et en plus de ça, d'une rencontre d'une collectivité. Parce que les gens qui habitaient là, ils avaient tous à peu près le même parcours. Et ça avait du sens, quoi, de se rencontrer. Un peu comme dans ce congrès.
Hein, c'est vrai, c'est
après
vrai.
Avoir... je caricature un peu, mais c'était un peu de ça, quoi. Et donc, ouais. Bon, alors c'était très spartiate. Hein, il n'y avait pas de salle de bain. On se lavait... Enfin, mes parents nous lavaient dans... On était cinq, donc nous lavaient dans les lessiveuses
c'est
de
fou,
l'époque.
Hein.
Hein,
oui.
Et puis on descendait chercher le charbon pour se chauffer la journée, quoi. Hein. Donc, c'était très spartiate, mais c'était tellement bien.
C'était dans l'Oise ?
C'était tellement bien, oui.
C'était
à
dans
quoi
l'Oise ?
La forêt, à quoi la forêt ?
Oui, c'est
ouais.
Ça, la cité Salingros, c'est comme ça ?
Roger Salingros.
Roger Salingros,
ouais, ouais,
oui, ouais, ouais. Je me suis un petit peu renseigné sur vous, effectivement.
Oui, j'ai été la visiter. Le directeur et le président de Oise Habitat ont eu l'amabilité de m'y inviter pour retrouver... j'ai retrouvé l'appartement où on était, mais je ne l'ai pas retrouvé en tant que tel, parce qu'il y a une petite salle de bain, il y a etc. Et ce n'est plus du tout ce... Comment je, dans ma mémoire, quoi, hein, je n'avais plus cela. Mais ça m'a fait quelque chose quand même de retourner là. Et puis c'était marrant parce que, enfin, je dis c'était marrant. Je suis président de la Fédération des offices
justement,
d'HLM.
On va en parler.
C'est extraordinaire.
C'est vrai que le destin est incroyable quand
même. C'est extraordinaire.
Alors, est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, avant évidemment d'évoquer les grandes lignes de votre présence ici, et aussi on va parler aussi de ce fameux projet de loi finance pour 2022, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la Fédération et les missions premières de cette Fédération ?
D'abord, on regroupe une famille. Vous savez qu'il y a plusieurs familles à l'Union sociale pour l'habitat. On regroupe les offices d'HLM. Si j'avais à définir ce qu'est un office d'HLM par rapport aux autres organismes du logement social, c'est des élus pour des élus. C'est des organismes qui sont gérés par des élus et qui vont travailler pour les collectivités territoriales, pour leurs élus. Et je trouve que ça, c'est important parce que ça laisse... Nous sommes ancrés dans la réalité objective du logement social.
Vous êtes sur le terrain, quoi,
voilà.
Tout simplement.
Et parce que qui décide de construire du logement social ou pas, de le construire ici plutôt que là ? Qui est en charge de la mixité sociale, par exemple ? Mais ce sont les élus, c'est pas Madame Mavargan qui, dans son ministère, va appuyer sur un bouton pour affecter les logements dans les organismes. C'est les élus locaux qui doivent être pris en compte. Et le fait qu'il y ait des organismes qui soient très proches des élus locaux, ça leur donne une arme pour construire leur propre politique de l'habitat. Ça, c'est la mission un peu de la Fédération. Maintenant, ça représente désormais, puisqu'il y a eu la loi Élan qui a regroupé un peu les organismes.
Oui.
Donc, on est autour de 210 organismes et nous représentons à peu près 2 400 000 logements. Donc,
Marcel Rogemont, vous avez la sensation quand même que les mesures gouvernementales prises d'ailleurs pour le logement social, est-ce que ce sont d'abord des mesures prises contre les plus modestes ?
Écoutez, je vais vous dire une chose. J'avais rencontré le Premier ministre Édouard Philippe quand ils ont mis en place la réduction du loyer financée par les organismes d'HLM pour baisser les APL, le coût des APL dans le budget de l'État. Et je leur disais, j'ai dit à Édouard Philippe, le premier ministre, je lui ai dit, si je comprends bien, vous inventez, puisque c'est l'argent des locataires. Moi, l'organisme que je préside, l'argent que j'ai, c'est les loyers de locataires. Je dis, vous avez inventé la solidarité entre les ménages à revenus modestes et les ménages à revenus modestes, puisque avec cette mécanique-là, oui. 20% des APL que les gens vont toucher dans les organismes d'HLM sont financés par leur loyer. J'ai dit, vous avez inventé la solidarité horizontale entre les gens à revenus modestes et les revenus... Je suppose qu'en haut, vous avez fait la même chose. Et c'est ça qui a fondamentalement... que l'on réfléchisse en permanence le mode de fonctionnement des organismes d'HLM, pourquoi pas. Mais ça marque quelque chose. Ça vient après des propos qu'on a entendus sur un pognon de dingue. Ça vient dans cet esprit-là. Et donc, on ne peut pas, nous, en tant qu'organisme d'HLM, en tant que personnes qui consacrons du temps, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan, j'allais dire, bénévole, puisque moi, je préside tout ça bénévolement, je ne touche pas un centime. Hein, c'est du militantisme.
Oui.
Et puis, à un moment donné, on se dit, mais comment on peut nous regarder de cette façon-là? Et ça, c'est la vraie question que je pose. Vous savez... Où est-ce que... j'ai beaucoup apprécié, par exemple, le Premier ministre Castex, qui est venu hier au Congrès. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses intéressantes. Il a dit, le logement social, ça fait partie du pacte républicain. C'est un produit de première nécessité. C'est dommage que j'avais pas le micro comme là.
Qu'est-ce
je l'aurais immédiatement. Mais j'ai dit, mais alors pourquoi on n'a pas la TVA 5,5 sur les PLUS? Comment ça se fait qu'on a... Enfin, je veux dire, quand vous voyez que des logements HLM sont moins aidés que des logements locatifs dits intermédiaires,
oui,
qui offrent des loyers deux fois supérieurs aux HLM, mais on les aide encore plus que nous, il y a un problème.
Ouais.
Excusez-moi, c'est un peu technique mon propos.
Non, mais c'est au
mais
contraire.
Ça oui. veut dire qu'on a l'impression que le logement social, on le déplace un peu dans le coin, puis on va mettre une focale sur le logement intermédiaire, sur des loyers qui sont 10 à 15% en dessous du marché. Et donc on a le sentiment, malgré tout, avec une analyse du Premier ministre juste, mais derrière, mais toutes les mesures qui sont prises ne sont pas en adéquation avec le propos.
Alors justement, juste un point important. Emmanuel Wargon est passé sur notre plateau hier et en fait, on lui a posé la question sur le fait, l'accompagnement en tout cas des collectivités, alors qu'on a traversé quand même une crise inédite en France et dans le monde. Est-ce que elle nous a dit que c'était pas finalement si catastrophique que ça et que finalement, on a passé le cap sans trop de dégâts. Est-ce que vous êtes d'accord?
D'abord, je constate que sur la pandémie qui a été là, soyons clairs, de quoi parlons-nous essentiellement quand on est sur les travailleurs clés ou indispensables? Le vocabulaire était toujours intéressant quand on dit les travailleurs indispensables. Vous n'étiez pas indispensable.
Hein. Personne n'est indispensable,
voilà, j'ai cru comprendre ça.
Mais, tout le monde est irremplaçable.
C'est ça.
Tout le monde est remplaçable, en tout
Moi,
cas.
Je constate simplement que c'est essentiellement beaucoup, pas seulement, mais beaucoup des fonctionnaires. Des gens qui sont dans le service public. Vous allez dans l'éducation, vous allez dans la santé, vous allez même dans les organismes d'HLM, parce que je l'ai dit 10 fois, 20 fois, mais qui était présent dans les quartiers, notamment des quartiers un peu difficiles, etc. Quelle était la seule présence publique dans ces quartiers, si ce n'est les organismes du logement social? On a continué, et non seulement on a continué à faire notre travail régulièrement, mais en plus de ça, on a été encore plus attentifs pour les personnes seules, pour essayer de développer. On téléphonait aux personnes pour ça. On a même, pour les ménages dont on savait qu'ils avaient des difficultés pour fonctionner un peu, ils avaient des difficultés, on allait les voir pour essayer de voir qu'ils ne tombent pas, justement, dans des retards de loyer qui fassent qu'ils s'en sortiraient plus. On a eu une attention encore plus forte auprès de nos locataires. Et je trouve que ça, c'est le service public. Ça, c'est l'honneur des organismes d'HLM. Et moi, je suis content.
C'est l'ADN de votre métier,
voilà,
en tout cas.
C'est ça, ouais. Exactement. Hein. On est au cœur du pacte social, du pacte républicain. Mais on le revendique et on en revendique les moyens.
Alors justement, je profite du fait que vous ayez envie de parler pour que vous nous donniez justement votre avis sur ce fameux projet de loi de finances 2022, sachant qu'il y a un budget quand même qui a été augmenté, qui était celui de 6% l'enveloppe consacrée au logement. Est-ce que cette augmentation est plutôt une bonne nouvelle?
Alors, pour les secteurs qui ont augmenté, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est tout. Essentiellement, les secteurs qui ont augmenté, c'est les secteurs de l'hébergement. hébergement d'urgence, etc. Et constatons une
priorité
avancée.
Pour la rénovation, en tout cas.
Voilà, oui. C'est évident. Mais le problème, pour ce qui concerne le logement social, il n'y a rien.
Oui.
Non seulement il n'y a rien, mais on persiste. Hein, c'est-à-dire que, d'ailleurs là, on est en train d'augmenter la ponction sur les organismes d'HLM, des fois qu'il n'y en avait pas assez. Quoi. Moi, je réclame la TVA 5,5 sur le logement social. C'est pas normal. On est un produit de première nécessité. On doit avoir la TVA 5,5. Et puis, il faut à un moment donné réfléchir, parce que l'écosystème dans lequel les lois de finances nous ont mis, ça nous pompe à peu près un peu plus de 2 milliards. 2 milliards, ça enlève des sommes considérables parce que sur le chiffre d'affaires, bon, 2 milliards, ça fait moins de 10%, mais ça représente une part importante de l'argent qu'on dégage de la gestion pour pouvoir investir, pour pouvoir réhabiliter, voyez-vous. Et on enlève une part significative, 20%, 30% de la marge pour pouvoir... Donc on construit moins.
Bah, surtout qu'il n'y a pas d'évolution majeure pour les collectivités territoriales, voilà. Dans cette loi de finances 2022.
Oui, c'est ça. On va dire les choses comme ça. Hein. Si on a annoncé, là, le Premier ministre a annoncé, je ne sais plus, 165 000 millions pour les maires bâtisseurs, etc. Je me suis dit, 165 millions, il y a 100 départements, ça fait donc 1 650 000 par département. Et comme on peut penser qu'il y a au moins quelques maires bâtisseurs dedans, je pense qu'ils vont toucher 50 000 balles.
Bon, alors par contre, Marcel, il y a quand même un ministère qui a été très largement récompensé, qui est celui de la transition écologique.
C'est bien.
Ça, c'est un sujet quand même
c'est
qui
bien.
Est majeur. J'aimerais quand même votre réaction, parce que la transition écologique touche aussi les HLM et les parcs HLM. Qu'est-ce que vous en pensez, vous,
de ça ? D'abord, moi, je trouve que c'est normal. Je suis très satisfait de cela. Moi, pour la Fédération des offices, voyez-vous, on s'est penché sur la question. On s'est dit, il y a un objectif 2050, neutralité carbone. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on doit faire ?
C'est un bel objectif, mais il faut le réaliser.
Oui, eh bien, on a regardé comment le réaliser. Et je l'ai dit au gouvernement à plusieurs reprises, pour les 2 400 000 logements de la Fédération des offices. On a regardé, il nous faudrait, en termes de subventions, au moins 400 millions par an pour pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2050. Voilà. Donc c'est 400 millions pour nous. En gros, ça veut dire que sur l'ensemble du secteur HLM, ça tourne autour d'un milliard. On met 2 milliards sur la prime Rénov. Bon, voilà, je dis, c'est pas quelque chose d'inconsidéré dès lors que c'est une priorité nationale.
On est d'accord.
On a pris des engagements nationaux, internationaux. Donc moi, je suis plutôt satisfait. Simplement, je voudrais que ça ait des conséquences encore plus importantes dans le secteur notamment du logement social. Parce que derrière la neutralité carbone, soyons clairs, hein, c'est du pouvoir d'achat pour les ménages.
Ah, évidemment.
Parce que nous, on travaille non pas sur le loyer, mais sur la quittance. Et donc, on est attentif à tout ce qui fait que le ménage que l'on va accueillir paye le moins possible. Hein, et donc, c'est un élément majeur, hein, à la fois social et à la fois sur le plan environnemental. Donc moi, je pense personnellement que le gouvernement devrait faire un effort encore supplémentaire, sauf à ce que cet engagement des 2050 soit pour la télévision, je ne veux pas dire pour la radio, on y est, donc, mais c'est pas suffisant. Je ne dis pas qu'il ne se fait rien, mais ce n'est pas à l'échelle des engagements internationaux de la France.
Ah bon, on est bien d'accord. Donc ce n'est pas encore assez pour vous.
C'est clair. Mais, mais ne boudons pas, quand on fait un effort budgétaire, on ne peut pas critiquer le... Non, il y a un effort budgétaire, mais c'est le bon chemin, mais il faut quand même accélérer très fortement.
Pour finir, parlons de ce congrès, hein, qui est quand même important. Ça vous permet aussi, vous, d'aborder des sujets aussi importants pour la Fédération. Quels sont pour vous les moments les plus importants, ou en tout cas les moments les plus forts depuis votre arrivée ?
D'abord, il y a... Je serais d'abord... Nous sommes des animaux grégaires. Excusez-moi de dire ça comme ça. Le fait de se retrouver.
Et oui.
Excusez-moi, je ne parle pas politique,
vous avez raison,
etc.
Vous avez...
Mais le fait de se
voir,
retrouver.
Déjà.
Et alors, moi, je trouve que ce congrès, c'est d'abord celui d'une fraternité retrouvée entre les acteurs professionnels dans les entreprises qui travaillent pour nous, etc. Nos personnels, les élus, tout ça, etc. On est content de se revoir. On est content de refaire ensemble corps en se disant, voilà, on travaille dans des fonctions différentes sur une fonction importante qu'est le logement social, on se retrouve. Ça, c'est à mon avis la première chose que je retiens.
Très bien. Pour finir,
la deuxième Marcel, chose, je veux constater quand même que le Premier ministre est venu.
Oui.
Et ça, c'est un point positif.
Il y a eu même la maire de Paris qui est venue.
Je pense que l'avoir rencontrée.
Tout à fait.
Mais Anne Hidalgo est venue, oui. Elle a voulu regarder un peu les choses.
Et donc elle est en campagne
naturellement.
Aussi, hein, elle est campagne,
mais c'est pas choquant. Ouais. Hein, c'est choquant. Il y en a d'autres qui ont une télévision à eux tout seuls pour faire campagne, donc il n'est pas choquant qu'elle puisse se déplacer là où il y a des problèmes qui correspondent à la politique qu'elle développe. Hein, c'est pas choquant, ça.
Exactement.
Non. Et la deuxième chose, donc le Premier ministre est arrivé. Il a fait un très bon constat. Je le disais tout à l'heure. Le logement social, c'est dans le pacte républicain. Le logement social, c'est un produit de première nécessité. Le problème, c'est qu'il n'en tire pas les conséquences. Et c'est ça, le problème. Moi, j'aurais voulu, à ce moment-là, qu'il nous annonce quelque chose. Il nous parle, par exemple, d'un petit quelque chose là sur l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties.
Oui.
C'est très sympathique, mais ça nous intéresse. C'est pas nous. C'est la relation entre les collectivités locales et l'État. Nous, là-dedans, ce qu'on veut, c'est que le système actuel fiscal
vous soit favorable
reste en l'État,
oui.
Et que on nous mette la TVA 5,5 sur le logement social.
Ah, vous y tenez à votre TVA 5,5, hein ?
Mais la TVA 5,5, c'est un produit de première nécessité.
Vous avez raison.
Je reviens pas sur l'histoire. Et puis, il faut mettre en berne la RLS. Pourquoi on construit pas ? Pourquoi on a que moins de 90 000 logements sociaux en perspective en 2020 et que là, on va avoir du mal à en avoir 100 000 ? Le gouvernement nous demandait d'en faire 250 000. Je n'ai pas signé le protocole sur 250 000. Et je l'ai dit à la ministre. Parce que le mouvement HLM, il est en face de trois défis. L'ANRU, c'est-à-dire la mixité sociale, la rénovation, c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui vont être dépensés dans les toutes prochaines années. C'est le rendez-vous 2050 sur la neutralité carbone, et c'est la production. On ne peut pas ne parler que de la production, et en plus de ça, on ne parle de la production que quantitativement et non pas qualitativement. Ça veut dire qu'il faut construire beaucoup, oui, mais différemment aussi. Oui. Et je trouve que dans l'acception actuelle, dans le procès qui nous est fait un peu de ne pas construire assez, ben d'abord on nous pique notre argent, on nous pique l'argent qu'on a dans les poches, et on voudrait avec mes petits bras musclés, c'est pas moi qui vais construire, hein, on est d'accord. Et puis deuxièmement, je trouve qu'il faut qu'on regarde l'ensemble des priorités qui sont là. Alors moi, j'entends par exemple le Premier ministre dire il y a une priorité pour les jeunes. Ben, je suis d'accord, ok, il y a une priorité. Mais alors moi, je sais aussi que, vous comprenez, on empile les priorités pour effacer les problèmes.
J'ai compris.
Vous comprenez ?
Il y en a peut-être trop,
un jour, on ne sait plus
combien il y en a,
rien,
trop,
hein, parce qu'il y a les personnes âgées, il y a les machins, il y a les gens qui sont à la rue, il y a etc., il y a machin, et puis on en sort un de temps en temps pour faire croire qu'on fait de la politique le logement.
C'est vrai.
Le principal problème de la politique du logement, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et donc, on doit mobiliser autant que faire se peut le maximum d'argent et le maximum de disponibilité pour pouvoir construire intelligemment, c'est-à-dire en construire aujourd'hui et ne pas avoir à faire la rénovation avant 2050. Quoi, hein. Donc il faut réfléchir à ça. Moi, ce que je souhaite de la part d'un gouvernement, hein, c'est qu'il se mobilise à côté de nous et qu'il ne nous fasse pas des croche-pieds.
Bon, en tout cas, vous êtes un militant et vous resterez un militant, Marcel Rogemont. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Je vous remercie aussi.
Président de la Fédération nationale des offices HLM et président de l'Association régionale des organismes HLM de Bretagne.
Merci.
C'était un plaisir. Merci.
Le 81e Congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.